Bon, alors moi, j'ai proposé une communication. On peut utiliser le micro, ouais. J'ai proposé une communication qui répond justement à votre appel, inégalité et forêt, et qui est une présentation de mon travail de thèse sur la forêt périurbaine française entre bien commun et bien club. Donc, je me présente, je m'appelle Arthur Garin-Turc et je suis doctorant en géographie à l'UMR EVS, Environnement, Ville et Société, à Lyon, et donc dans la branche qui s'appelle RIVE, qui est le petit labo basé à l'ENTPE, l'École nationale des travaux publics d'État. Ça fait beaucoup d'acronymes. Voilà, pour la présentation scientifique. Donc moi, j'ai commencé ma thèse en octobre 2020. Donc là, je finis ma première année et je commence ma deuxième avec un terrain. Je suis en pleine période de terrain depuis le mois de juin. Donc je suis sous la direction d'Éric Charme, qui vient de l'aménagement, des études urbaines, et en co-direction avec Romain Melot, à l'INRAE, qui lui a une approche davantage en sociologie du droit que je réinvestis dans mon travail. Alors, moi je m'intéresse à la forêt périurbaine française sous l'angle des communs. Donc les communs, c'est une littérature scientifique qui est en train de monter depuis, on va dire, une dizaine d'années aux États-Unis, en Angleterre, et qui commence à arriver en France. Et j'investis cette littérature sur les communs par un espace qui est celui de ma thèse, qui est le périurbain forestier. Bon, les forêts périurbaines, tout dépend dans quel sens on le met. Donc, ça a été sur les communs, pour faire simple, c'est souvent présenté comme une troisième voie de gestion entre l'État et le marché. Voilà, c'est-à-dire, une troisième voie, c'est qui serait autre, où les communautés locales seraient suffisamment à même de gérer leur économie, leur environnement. Alors, ça a été surtout étudié dans les pays du Sud, notamment dans le contexte de la colonisation. Moi, pour ce qui est mon objet forestier, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés sur les forêts au Congo, de communautés locales qui essaient de résister justement aux colonisateurs, alors là, qui justement, avec l'État, essayaient d'exploiter, de se réapproprier les forêts, ou alors d'autres entreprises aujourd'hui, sous une autre forme. Donc, Ostrom, qui est le nom qui revient, puisqu'elle a fait école, qui a été prix Nobel d'économie en 2009, a marqué justement ce débat scientifique sur les communs. Donc elle a une approche d'économiste et aussi une approche anthropologique, où elle a étudié ces communautés locales dans les pays du Sud. Évidemment, avec un regard très positif sur les bienfaits sociaux, environnementaux des communautés locales. Et plus récemment en France, on a Dardo et Laval, sociologue et philosophe, qui en 2015 ont sorti un ouvrage assez remarqué, dans le milieu scientifique, on va dire, soyons modestes, qui s'appelle Commun, voilà, marqué en gros Commun, et qui propose un concept qui serait le concept de commun, avec une dimension vraiment révolutionnaire, transcendantale, et ils font dans leur ouvrage une critique politique d'Ostrom, en montrant que Ostrom, certes, montre que les communautés peuvent gérer les ressources de façon optimisée, mais finalement, eux, ils critiquent Ostrom en disant qu'elle reste dans un cadre économique capitaliste. Et eux, justement, tac, ils vont critiquer cette dimension économiste avec une approche politique, en disant, Ostrom reste dans ce cadre économique. Et eux, ils proposent donc une autre définition du commun, qui est plus politique. Donc, j'étudie la forêt périurbaine, donc c'est très précis, puisque dans le périurbain, on en a un peu parlé ce matin sur cet espace périurbain qui a souvent été, avec Élodie, l'espace périurbain a souvent été perçu comme l'espace du tout automobile, l'espace des pollutions, des mobilités pendulaires, comme on apprend en géographie. Bon, voilà, il y a aussi du vélo dans le périurbain, il y a aussi des forêts, d'accord. Donc, je pense qu'il y a une autre approche environnementale, on en parlait ce matin avec Élodie, justement, sur, on a un autre regard sur le périurbain que nos prédécesseurs. Et donc, je pense qu'on est complètement sur la même longueur d'onde. c'est-à-dire révéler l'aspect positif du périurbain dans sa dimension écologique et environnementale. Avec, à ceci près, moi, je n'étudie pas tellement les classes populaires, j'étudie ceux qui, justement, perçoivent la forêt périurbaine comme un maquis dans un écrin de verdure, c'est-à-dire ceux qui vont s'approprier la forêt et où l'esthétique compte. Alors, le maquis, j'ai pris cette métaphore pour montrer l'espace un peu de sécession, justement, pour la question de l'appropriation. Et l'écrin de verdure, eh bien, c'est la dimension esthétique de la forêt qui prime sur la dimension productive de la forêt. Il faut que je me dépêche parce que là, je prends trop là. Donc, ma problématique dans ma thèse, c'est une forêt en tension entre bien commun et bien que je me suis aperçu que je n'ai pas mis de tableau, c'est tout à fait dommageable, mais je vais vous l'expliquer à l'oral. Le bien commun et le bien club, ce sont des concepts en économie. Après, ça a été utilisé, voilà, je vous l'ai dit, par plein d'autres géographes, sociologues, anthropologues, et ça a été déformé. Mais à l'origine, bien commun et bien club, ce sont des concepts d'économie. Ce qu'on appelle bien commun en économie, c'est une ressource qui a un accès libre, d'accord, qui est en accès libre, mais qui présente une forte rivalité. Qu'est-ce que c'est la rivalité? C'est le fait que si je consomme la ressource, je diminue la quantité de la ressource. Okay, bon, par exemple, la chasse, c'est... on peut dire la chasse comme bien commun, ça voudrait dire la forêt est accessible, voilà, il y a du gibier, mais par contre, forcément, quand je tue un sanglier, bah, il y a moins de sangliers pour celui qui passe après. Ok. Le bien club, c'est exactement l'opposé. C'est-à-dire un accès contrôlé, mais faible rivalité. Bah, par exemple, l'autoroute à péage. L'autoroute à péage, évidemment, l'accès limité, je dois payer. Mais le fait de rouler sur la route ne dégrade en rien la route et la voiture d'après peut circuler et je ne diminue pas la quantité. D'accord ? Donc ça va être le bien club. On peut penser, si on pense aux forêts, bah, la récréation, voilà, la marche. Alors la marche où il y aurait quand même un accès limité. Bon, on peut penser, comme on est à Tours, aux chasses privées en Sologne où vous avez justement une forêt qui va être engrillagée et on vous fait payer l'accès. Et après, donc, un club, alors il faudrait supposer qu'il y a un gibier abondant. Et donc, le fait de tirer ne diminue pas. Enfin bon, après, c'est des questions de débat. Donc, la forêt périurbaine, pour la présenter en quelques mots, c'est des conflits d'usage, comme vous l'avez présenté, c'est tout à fait ça. Moi, j'étudie les conflits d'usage et les inégalités d'accès. C'est-à-dire que j'étudie cette forêt périurbaine dans ce gradient entre bien commun et bien club. Donc, ce n'est pas tout noir, tout blanc. D'accord, c'est pas aussi manichéen. Je ne mets pas une étiquette sur bien commun ou bien club. Et essayer de voir tout ce gradient entre inclusion, exclusion, en fonction des usages qu'il y a dans cette forêt périurbaine. Donc, que j'ai regroupé là, que l'on voit sur ce croquis, schéma, avec des usages davantage récréatifs, promenades, cueillettes, ou de production, alors ce que j'appelle production, mais j'aime pas tellement ce terme, mais qui sont davantage liés à la sylviculture, en fait, d'accord, et l'usage de production de bois, il faudrait préciser, ou de protection, réserve intégrale, ou d'habitat, c'est-à-dire, par exemple, des cabanes qui peuvent être habitées à l'année ou seulement en saison. Ça, c'est donc croquis qui résume la pluralité des usages de la forêt périurbaine. Donc, dans une première partie, pour vous montrer, alors je me suis, évidemment, comme on est à Tours, je me suis dit, il faut que je leur prenne des photos de la forêt périurbaine de Tours. Voilà deux types de forêts qu'on a dans le périurbain à Tours. On a le bois des Touches et on a la forêt de l'Arcée. Pour vous dire, en fait, il y a deux pôles aujourd'hui dans la forêt. C'est-à-dire qu'on a un pôle plus récréatif et un pôle plus productif. Et on a une spécialisation, j'ai appelé spécification, mais je n'aime pas ce terme, en fait, j'aurais dû mettre spécialisation, soit en forêt récréative, soit en forêt productive. Donc là, par exemple, au bois des Touches, eh bien, il y a une spécialisation justement en forêt récréative. Observez bien sur la photo qu'il y a au fond, on voit le panneau interdit de circulation et il y a une barrière. Hein, donc l'accès est contrôlé, limité dans cette forêt récréative. Et à l'opposé, dans la forêt de l'Arcée, exploitation du bois par l'ONF, c'est la forêt productive qui prime. Bon, j'ai regardé dans la forêt de l'Arcée, c'est plus compliqué. Hein. Il y a aussi une partie récréative. Enfin, pour vous dire, aujourd'hui, la forêt périurbaine, elle est prise en tension entre ces deux grands usages principaux. D'accord ? Récréation, mise en production ou mise en récréation. Surtout avec le cours du bois qui augmente, évidemment, la dimension productive est de plus en plus forte en ce moment. Comment on transcende les inégalités d'accès à cette forêt périurbaine? Puisque évidemment, tout le monde ne peut pas accéder à la forêt périurbaine, elle n'est pas toujours très accessible, il n'y a pas toujours un bus, ça suppose une voiture, ça suppose du temps, ça suppose aussi une habitude. Donc, il y a ce que l'on voit émerger en ce moment, et c'est ça que j'étudie, c'est des collectifs qui essaient de se réapproprier la forêt, des collectifs d'usagers qui se réapproprient la forêt, et donc qui essaie de transcender les inégalités d'accès, transcender aussi les inégalités de gestion. C'est pas seulement accéder à la forêt, c'est aussi la gérer, se l'approprier. C'est-à-dire que ce ne soit pas un monopole d'État qui est l'ONF qui gère uniquement la forêt dans son coin. Non, voilà, ce sont les habitants, nous les usagers. C'est nous les usagers, nous allons gérer la forêt. Donc c'est dans une logique autogestionnaire. Donc j'appelle ça l'émergence de la forêt périurbaine comme bien commun. Et ça prend des formes très différentes. Alors, dans une forme d'engagement radical, bon, on va voir la ZAD. Par exemple, là, je ne touche pas à nos arbres. ZAD du Moulin, dans la forêt de Kolbsheim, en périphérie de Strasbourg. Ou alors une campagne d'ouverture au public dans la forêt du Gers, en périphérie de Toulouse. Donc, une forme plus institutionnelle, d'accord, d'une forêt davantage ouverte, où justement les usagers essaient de se la réapproprier. Phénomène qui s'amplifie justement depuis les confinements en 2020. Puisque depuis 2020, tout le monde veut revenir en forêt, les citadins veulent revenir en forêt, ce qui évidemment accentue les conflits d'usage entre les habitants locaux, les ruraux, les citadins, les producteurs et ceux qui sont davantage portés sur le loisir. Donc, par contre, il y a des obstacles évidemment à l'émergence de cette forêt comme bien commun. Selon moi, et ça c'est l'hypothèse que je pose dans ma thèse et que je vais essayer de démontrer, c'est que le fait de passer d'une forêt productive avec des usages d'exploitation du bois, j'ai appelé ça de la récolte, donc ça peut être cueillette, ça peut être de la résine, par exemple aussi, chasse, sylviculture, passer de ce type d'une forêt productive à une forêt plus récréative, en fait, selon moi, c'est justement ce gradient-là qui permet d'expliquer le passage d'un bien commun à un bien club. Parce qu'en fait, quand c'est un espace récréatif, c'est davantage un espace de consommation. Vous voyez, les gens ne vont pas se réunir pour gérer ensemble la récréation. Alors que quand il s'agit d'un espace productif, bah, les chasseurs, il y a une communauté de chasseurs. Il y a une communauté de forestiers. Quand cela suppose que ce soit des forestiers habitants ou usagers, d'accord, pas juste seulement des techniciens qui viennent deux fois par an comme pour l'ONF, d'accord, de forêts traditionnelles qui soient autogestionnaires. Donc selon moi, justement, c'est ce passage de la production à la récréation qui explique la bascule entre bien commun et bien club, d'un point de vue économique. Et donc, on peut y lire des nouvelles inégalités de la forêt comme bien club. Alors là, je vous ai mis deux exemples locaux, encore une fois, avec le parc animalier au bois des Hattes, donc fonction vraiment récréative à destination des citadins, ou évidemment la sylvothérapie. Donc j'ai vu Touraine-Loire-Vallée fait une grande campagne là-dessus, qui, évidemment, il y a des clubs de sylvothérapie qui nécessitent un aménagement différent de la forêt. Une autre gestion. Bon, là, je vous ai montré ça sur Tours pour vous dire qu'en fait, on peut lire ça un peu dans toutes les grandes agglomérations françaises, mais aussi européennes. Moi, dans ma thèse, j'étudie trois terrains d'enquête. Je fais une comparaison entre plusieurs communautés forestières périurbaines. Et justement, je m'amuse un peu dans ma thèse, parce que sinon, on s'ennuie. Je compare des communautés, justement, qui sociologiquement n'ont rien à voir. Je compare les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, qui gèrent leur forêt. Il y a un collectif, donc évidemment, de gauche radicale, qui est bien identifié, qui a été très bien étudié, et donc qui, en ce moment, est en train de gérer la forêt. Et ils ont réussi à obtenir, grâce au conflit, à la lutte de la ZAD, ils ont réussi à obtenir un contrat avec l'ONF, c'est-à-dire que c'est une forêt qui appartient au département, la forêt de Roanne. Normalement, les forêts publiques sont obligatoirement gérées par l'ONF. Voilà, c'est le régime forestier, toute forêt publique en France est gérée par l'ONF. La forêt de Roanne à Notre-Dame-des-Landes est la première forêt qui a réussi à faire une entaille au régime forestier, puisque l'ONF délègue la gestion aux collectifs zadistes dans la forêt de Roanne. Donc là, moi, ça m'intéresse, évidemment, puisque on a un collectif d'habitants et d'usagers qui se réapproprient la forêt. Et donc là, qui en fait une production de bois principalement. Ma deuxième forêt que j'étudie, c'est la forêt usagère de la Teste de Buch. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop et qui sont de Tours, la forêt usagère de la Teste de Buch est au pied de la dune du Pilat. C'est-à-dire au sud d'Arcachon, on est sur la façade atlantique, à l'ouest de Bordeaux. C'est la dernière forêt d'Europe à être gérée selon un droit local gascon qui remonte au XVe siècle. Alors, c'est fascinant. Puisque c'est la forêt de protection dunaire qui est juste au pied, hein, là que je vous ai montré la photo, hein, c'est la forêt qui est au pied de la dune, et donc qui a un droit tout à fait original pour nous, puisqu'en fait c'est une forêt qui remonte avant la Révolution française, où il y a une déconnexion entre le droit du sol et le droit des usagers. Mais vous savez, au Moyen-Âge, avant, c'était les usagers qui primaient sur le droit du sol du propriétaire. C'est-à-dire qu'en fait, les propriétaires sont propriétaires de la forêt, mais ils n'ont pas la jouissance de la parcelle. Ce sont les usagers uniquement de la commune de la Teste de Buch. Il faut être habitant depuis au moins 10 ans pour pouvoir aller couper son bois. Donc c'est des règles. Et évidemment, on n'a pas le droit de vendre son bois en dehors de la commune. Tout ça est très respecté et encore appliqué. Et ils ont des relais jusqu'au ministère pour ceux qui ne voudraient pas respecter ce code local. Donc là aussi, on a une communauté très bien identifiée et qui s'approprie la forêt. Qui s'approprie la forêt et qui fait respecter ce droit local. Alors là, évidemment, ils ont un fonctionnement en fait assez proche des zadistes, sauf que c'est des petits bourgeois, des petits vieux d'Arcachon, puisqu'ils ont une scierie locale et ils ont aussi une interdiction de vente de bois en dehors de la ZAD, puisque évidemment, à Notre-Dame-des-Landes, ils vendent du bois, mais uniquement sur la ZAD. Donc moi, ce qui m'intéresse en fait dans ces discours des communautés forestières périurbaines, c'est de voir que ils présentent à chaque fois la forêt comme un bien commun, ouvert à tous, mais qu'en réalité, dans les pratiques, bah, chacun sa forêt, quoi. C'est-à-dire que dans les discours, la forêt est perçue comme un espace très inclusif, mais qu'en pratique, bah, ils font exactement l'inverse. Ils mettent en place politiques, parce que c'est vraiment à l'échelle très locale, mais en tout cas des règles très exclusives. C'est pour ça que je parlais de Romain Mello, qui est mon co-directeur de thèse. C'est là où je mobilise toute la sociologie du droit, pour la Teste de Buch, évidemment, parce que là, c'est un droit local, mais aussi à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, le régime forestier, voir comment, en fait, les usagers utilisent le droit comme une arme de réappropriation de l'espace forestier. En plus, évidemment, ils disent « Ah, il faut que je me taise, d'accord. » Et bon, la troisième forêt, c'est la forêt des Monts d'Or, qui est une forêt assez bourgeoise de l'Ouest lyonnais, et qu'une forêt un peu plus, comme j'ai bien aimé l'expression de ce matin, la forêt étalon, voilà, plus représentative des forêts périurbaines françaises, qui sont avant tout quand même des espaces de la bourgeoisie. Donc ma méthode, elle est très classique, c'est rencontrer des gens et faire des entretiens avec eux, pour étudier les enjeux de modalités de gouvernance. J'étudie les faisceaux de droit d'Ostrom, dont on pourra discuter plus tard. Et voilà, je voulais juste poser une question à la salle. C'est là, en ce moment, je suis en train de me questionner. Je me dis, pourquoi pas faire une cartographie collaborative, réunir des gens dans une salle et leur dire, dessinez-moi une forêt, quoi. Prendre une grande, grande carte blanche et prendre des gens très différents et leur dire, on va essayer de construire ensemble la forêt. Et voir en acte, en fait, les conflits de représentation. On leur dit, bah, attends, il faut qu'on sorte de cette salle en ayant une carte de la forêt. Et moi, j'enregistre tout ça. Ça pourrait être pas mal. J'en ai parlé à mon directeur de thèse, il m'a dit, essayez et on verra. Voilà. Source des illustrations. J'ai désolé pour le temps, j'ai même pas regardé l'heure.